Oui, je voudrais juste partir d'une remarque, que Sophie Tarny a évoquée tout à l'heure, et qui était en vérité à la base de la réflexion que je vais essayer de présenter devant vous. C'est la notion de représentation et le fait que dans le champ des études portant sur les langues, aujourd'hui la notion de stéréotype est aujourd'hui de plus en plus présente. Hein. On reconnaît entre autres, en particulier, que les représentations que les apprenants font des langues, de leurs normes, de leurs caractéristiques ou de leur statut, influencent les procédures et les stratégies qu'ils développent et mettent en œuvre pour les apprendre à les utiliser. Donc, au-delà de cette remarque, ce qui m'intéressait, c'était de m'interroger sur les stéréotypes qui tournaient autour de la langue arabe, de l'enseignement de l'arabe. Donc, ces stéréotypes, en réalité, sont des théories, qui sont des théories naïves, hein, dans lesquelles interviennent massivement des processus de catégorisation et de généralisation propres à la pensée sociale, en général. Et donc, en simplifiant et en organisant la réalité sociale, ces stéréotypes constituent pour le sujet des moyens cohérents et efficaces pour expliquer le monde, pour se l'approprier. Je suis donc inspectrice pédagogique d'arabe depuis maintenant 16 ans. J'ai en charge plusieurs académies, j'en ai eu 11, j'en ai maintenant 9. Et mon propos ne se veut pas du tout scientifique, hein, au sens classique du terme, mais en vérité un compte-rendu d'observation et de réflexion un peu sans affect. J'ai voulu prendre un petit peu de distance, hein, par rapport à un quotidien professionnel complexe et essayer d'y voir un peu plus clair dans ce qui se passe par rapport à l'enseignement donc, de ma discipline, de mettre un petit peu en lumière les comportements des uns et des autres et les différents stéréotypes véhiculés par les différents acteurs du système éducatif par rapport à cet enseignement de langue que l'on qualifie de sensible. Donc l'arabe aujourd'hui, dans le secteur public, je ne compte pas l'enseignement privé parce que l'enseignement privé est vraiment tout à fait minime, est majoritairement enseigné donc dans des collèges qui relèvent de l'éducation prioritaire, alors que la typologie des lycées est plus variée. On trouve également des lycées qui relèvent de l'éducation prioritaire, mais aussi des lycées dits de centre-ville. Si je prends l'exemple de la ville de Lyon, on a bien cette configuration-là, avec des lycées éducation prioritaire qui ont des fois le label et qui des fois ne l'ont pas, et puis des lycées plutôt prestigieux, comme par exemple le lycée du Parc. Dans l'enseignement scolaire, collège et lycée, le nombre d'élèves est actuellement environ de 11 250 hein, hors post-bac, avec 183 professeurs titulaires qui sont soit agrégés, soit certifiés. Alors, vous allez trouver ça un peu bizarre, mais on qualifie l'arabe de langue à faible diffusion dans le système éducatif français. Voilà. Dans l'enseignement primaire, l'enseignement de l'arabe est exclusivement représenté par l'enseignement de langue et culture d'origine, dont l'acronyme est ELCO, qui s'appuie donc depuis les années 80, 81, 82, je crois, sur des partenariats bilatéraux avec les trois pays du Maghreb, donc le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. C'est un enseignement donc de langue arabe qui est proposé en différé, c'est-à-dire en dehors des heures de classe, par des enseignants qui sont ressortissants donc des pays concernés et rémunérés par leur pays. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le suivi administratif et pédagogique est assuré conjointement par les inspections académiques françaises et les responsables pédagogiques des consulats concernés. On compte environ, je n'ai pas les chiffres exacts pour cette année, plus de 40 000 élèves qui suivent cet enseignement. Les programmes d'enseignement ont été réalisés en commun. Et l'évolution du dispositif qui se manifeste chaque année par une circulaire dit bien que ce dispositif peut accueillir tous les élèves qui le souhaitent, et pas seulement les élèves ressortissants de ces trois pays. Ce qu'on oublie aussi de préciser. Et on oublie de préciser aussi aux familles. Oui. Oui. Quelles sont les représentations que l'on discerne dans le primaire? Tout d'abord, on note une profonde méfiance, si ce n'est un rejet envers cet enseignement à l'école, avec des accusations de communautarisme, ghettoisation, qui font totalement l'impasse sur les commissions faites aux enseignants, en fait, à cet enseignement, pas de matériel, espace pour l'enseignement non adapté, pas de valorisation, pas de travail en synergie avec les autres enseignants, bref, une vraie marginalisation. Cette marginalisation est aussi renforcée par l'action des mairies, puisque vous savez que les écoles primaires, la gestion des écoles primaires dépend des mairies, par les mairies qui font très souvent obstacle à la tenue des cours avec des moyens des fois pas très élégants, du genre en hiver on ne met pas de chauffage dans les classes au moment où les élèves sont censés avoir cours et j'en passe. De manière générale, quand on observe le fonctionnement de l'enseignement primaire, mis à part deux exemples de sections internationales primaires, trois exemples de sections internationales primaires dont dispose l'arabe en France, de manière générale, il semble totalement impossible de proposer un enseignement d'arabe au primaire dans le cadre de l'enseignement des langues. Vous savez que le ministre Jack Lang a été totalement novateur en mettant en place un enseignement des langues dès l'enseignement primaire, aujourd'hui dès le CP, et que un des axes essentiels, enfin écrit, enfin, en tout cas dans les orientations, est de proposer une diversification des langues. L'arabe semble totalement impossible, on semble totalement impossible d'intégrer l'arabe dans ce cadre. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a une représentation sociale générale et qu'il n'y a pas de salut sans l'anglais. C'est impossible. L'anglais, c'est évident, il faut commencer au primaire, ce qui n'est prouvé par aucune étude. Et que d'autre part, l'arabe ne rentre pas dans le champ des possibles. Alors on entend souvent les arguments suivants, c'est bon, c'est pas possible d'apprendre l'arabe, vous comprenez, les élèves ont besoin d'apprendre le français. Alors que dans le même temps, quand les mêmes élèves, s'ils apprennent l'anglais, l'allemand, l'espagnol, ou même des fois le chinois, le français n'est pas un problème. Comme si l'apprentissage de l'arabe mettait en quelque sorte en danger de manière symbolique l'apprentissage du français. Dans le secondaire, les choses se complexifient. De la même manière que dans le primaire, les orientations préconisées à l'échelle nationale sont de diversifier les langues apprises au collège. Quand il est question d'arabe, on peut rencontrer plusieurs comportements. Quel est le premier comportement que je qualifie de primaire, qui est on nie à la langue arabe un statut d'enseignement. Ah bon ? Et pourquoi ? Et pourquoi l'arabe ? Un autre élément, c'est que quand on propose un enseignement de l'arabe, c'est que quelque part, on veut attirer une population que l'on ne désire pas vraiment accueillir. Juste pour exemple, en téléphonant à un proviseur qui gère une cité scolaire à Clermont-Ferrand, qui est maintenant parti en retraite, donc on ne peut pas le retrouver, à qui je proposais de mettre en place, parce que certains parents m'avaient contacté, de mettre en place un enseignement de l'arabe en LV2, il m'a dit sur un ton très poli, des mots très durs, je ne rappelle plus des mots exacts, mais c'était « Madame l'inspectrice, vous ne pensez pas sérieusement que nous allons faire venir ces élèves chez nous. » quoi j'ai répondu, une LV2, ils sont déjà là, hein, les viseurs. Et donc, si vous voulez, c'est une très grande ambiguïté. Hein. On ne veut pas mettre en place, on veut pas mettre en place l'arabe parce qu'on a l'impression d'attirer une population qui est censée être difficile, mais en vérité, dans beaucoup de cas, la population, elle y est déjà. Donc, implanter de l'arabe, c'est reconnaître, en vérité, que ces élèves sont là, avec peut-être une spécificité. Quand l'écoute est favorable, ça nous arrive quand même, pas toujours, le stéréotype dominant, c'est qu'il faut implanter l'arabe dans les quartiers défavorisés, parce que là, il y a une population d'origine immigrée, arabe, susceptible de l'apprendre. Alors, les raisons sont quelquefois, je vais dire, bien intentionnées, peut-être naïves, qui sont les suivantes. C'est les élèves ont besoin de connaître leurs racines. Ils sont déjà locuteurs, donc ça sera plus simple pour eux. Et puis, peut-être que ça pourrait être un plus pour eux. Plus récemment, par les événements que nous avons vécus, nous avons l'argument suivant, la langue arabe pourrait être un outil pour contrer un éventuel radicalisme. Et le plus souvent, il est rarement question d'aborder l'arabe comme une langue de culture, comme une langue internationale qui pourrait elle aussi former le futur citoyen, lui donner des compétences susceptibles de le former et les moyens de l'engager utiles pour son parcours de formation. En réalité, il y a là une réelle communautarisation du discours au moment même où on dit ne pas vouloir le faire. Pour revenir sur l'exemple que donnait Mme Albouche tout à l'heure de ce collège à Vitrolles, la réalité de ce qui s'est passé, hein, c'est qu'on a, on a monté cette bilingue. Qui a commencé à très bien fonctionner, mais les différents freins, à la fois au niveau du primaire et les freins du nouveau chef d'établissement, qui ne comprenait pas comment dans le meilleur collège de Vitrolles, on pouvait avoir un enseignement d'arabe. Mais enfin, c'est pas possible. Mais c'est réel, hein, ce que je dis. A fait que finalement, les choses se sont étiolées. Il y a aujourd'hui, malgré tout, une prise de conscience, lente, mais une prise de conscience, qu'il est nécessaire, sur le territoire, d'avoir une volonté de mixité sociale, qui permettrait à l'enseignement de l'arabe de prendre sa place dans des établissements qui ne relèvent pas exclusivement de l'éducation prioritaire. Et en même temps, on continue une politique, quelque part, une politique d'enfermement. On peut rencontrer aujourd'hui des acteurs, qu'ils soient chefs d'établissement, par exemple, qui ont un abord plutôt positif par rapport à la culture arabe. Et je les rencontrais plusieurs fois et ça m'a quand même interpellée. On veut bien des cultures, mais la langue arabe, non, pas trop quand même. La culture, c'est bien, mais pourquoi voulez-vous qu'on mette en place un cursus de langue arabe. Et c'est aussi complètement ambivalent, comme si on pouvait avoir accès à une culture complètement indépendamment de la langue qui en est le support. Les acteurs sont nombreux, et par rapport à la langue arabe, il faut beaucoup d'entêtement, beaucoup d'acharnement de la part de plusieurs acteurs, qui peuvent être par exemple des directeurs académiques, des chefs d'établissement, mais qui doivent s'entêter sur la durée. Et il faut qu'ils soient conscients qu'il faut porter les projets. Je suis toujours surprise, en étant responsable de la carte des langues de l'Académie d'Aix-Marseille, de voir la facilité avec laquelle on met en place l'enseignement de l'allemand,
l'enseignement du chinois.
Et dès qu'il s'agit d'arabe, ça prend un temps infini, une énergie incroyable. Le temps que je mets à monter une structure en arabe, mes collègues des autres langues en ont monté 10, 15. Et c'est ce différentiel de temps qui m'a quand même, à un moment donné, interpellée en me disant, mais comment ça se fait que ce soit plus lent pour l'arabe que pour les autres langues? En réalité, c'est parce que les freins sont des freins non explicites et qui sont des freins réels. Et je pense, très lié à des stéréotypes. Les parents, qu'en est-il des parents? Pour la majorité des parents d'élèves du collège, il y a une volonté de transmettre une langue que beaucoup ne maîtrisent pas. Un petit peu comme une sorte de revanche. La langue arabe semble être un moyen de transmettre un patrimoine culturel, un capital informel, qui prémunirait comme une sorte de perte d'identité. Certains parents aussi ont besoin de retrouver des éléments de leur propre apprentissage. Très peu de parents viennent à l'arabe pour des raisons de débouchés professionnels. Donc un rapport très intime à l'arabe qui est aussi doublé par la caractéristique des implantations. On évitera un établissement dissensible, même s'il propose un enseignement de l'arabe. Par contre, si on propose de l'arabe dans un établissement neutre, quand je dis neutre, c'est un établissement, on va dire hétérogène, ou même un établissement valorisé, les classes sont pleines. En réalité, nous sommes dans un système où, en vérité, le système propose une offre et n'étudie pas la demande. Et par ailleurs, par rapport à l'arabe, la demande n'est pas explicite. Il faut vraiment arriver dans certaines conditions où les familles sont ce que l'on appelle des catégories socioprofessionnelles, on va dire, élevées, pour que là, la demande soit formalisée et portée. Et ce que je m'évertue à dire, c'est que justement, à partir du moment où il n'y a pas une demande extrêmement explicite, il faut que l'institution fasse une offre. Les professeurs sont aussi des acteurs. Être professeur d'arabe en France n'est pas simple. Parce qu'au fond, on n'est pas un professeur comme les autres. Plusieurs professeurs que je rencontre me l'ont exprimé de manière très claire. Avoir passé les concours en arabe, concours qui ont la réputation d'être très exigeants, confère une représentation de soi très, très positive, très améliorative. Et il ne faut pas oublier l'héritage orientaliste, la longue tradition humaniste autour des études arabes qui donne à tout arabisant une fierté légitime et une image de soi extrêmement positive. La réalité du métier se situe à l'opposé. Une image dégradée de la fonction, un statut très fréquent de titulaire de zone de remplacement parce que nous n'arrivons pas à créer suffisamment de postes, un sentiment de paupérisation, d'infériorité. On voudrait avoir de bons élèves pour redonner du lustre à une langue, à une culture qui sont finalement confinées dans un espace défavorisé. On ne comprend pas toujours ces élèves, même quand on est professeur d'arabe. Alors on n'est pas toujours outillé forcément pour comprendre ce qui se passe dans les familles, dans les quartiers, exactement comme les autres professeurs. Et les images, les élèves de l'éducation prioritaire renvoient à une image de soi infériorisée. Par ailleurs, pour pouvoir dynamiser l'enseignement, lui donner du rayonnement, monter des voyages, des partenariats, demande des efforts énormes. J'ai là, je vois devant moi, deux professeurs qui en savent quelque chose. Et il n'y a pas d'organisme ni d'aide pour aider à réaliser ces projets. Nous n'avons pas l'OFAGE, comme pour la langue allemande. Nous n'avons pas du British Council, très impliqué dans les échanges culturels et autres institutions. Les pays arabes n'ont pas de politique culturelle en ce sens. C'est donc un très grand isolement que vivent les professeurs d'arabe, qui n'est pas toujours très simple à gérer. Par ailleurs, nous n'avons pas de public captif. L'anglais, c'est un public captif. Les problématiques de l'anglais ne sont plus des problématiques de langue vivante étrangère. Tout le monde fait de l'anglais, il n'y a pas besoin. Tout le monde fait de l'espagnol, c'est la deuxième langue vivante en France. Par contre, pour les autres langues dites à faible diffusion, là, il faut aller chercher les élèves. Il faut aller chercher les élèves, il faut faire des actions de sensibilisation à l'école primaire, ou maintenant en sixième, dans le cas de la LV2, et cela demande, je dirais, une sorte de militantisme, quand même, qui quelquefois peut faire peur à certains de nos jeunes professeurs. Les élèves, maintenant, on parle d'eux, mais de temps en temps aussi, ils ont besoin de dire qu'ils existent. Les élèves, ils sont, quand on discute avec eux, ils sont entre la revendication d'une identité et en même temps une volonté que je qualifie de passe-muraille, c'est-à-dire d'identification aux autres, qui est typique en vérité de l'adolescence. Donc, on va faire de l'anglais, de l'espagnol, comme les copains. Il n'y a pas de raison de se singulariser et de montrer sa spécificité, parce qu'à cet âge-là, on n'a pas envie de se singulariser. Ça peut venir plus tard. Mais à l'époque, en collège, ce n'est pas encore ça. Par contre, ce que nous pouvons remarquer, c'est que chaque fois qu'il y a montage de projets pluridisciplinaires, comme les projets des sections de langue et culture méditerranéenne dont Gisèle Ladouche vient de vous parler, ces projets-là vont offrir aux élèves la possibilité de travailler en pluridisciplinarité, de partager en vérité un apprentissage et de situer la langue arabe hors d'un contexte familial, hors d'un contexte intime, pour le concevoir comme un outil pour comprendre le monde, une partie du monde. Il est très intéressant de noter que les quelques sections internationales dont nous disposons en France, qui sont des sections d'excellence, dans ces sections internationales, nous n'avons pas du tout ce genre de stéréotypes. Vous allez me dire, c'est normal, ce sont des sections d'excellence. Parce que, quelque part, les chefs d'établissement, les équipes, les professeurs ont le sentiment qu'ils participent à quelque chose de amélioratif, de quelque chose de noble, qu'ils redorent le prestige de la langue arabe, qu'ils redorent le prestige des élèves. Et dans ce contexte-là, la langue arabe, généralement, est très valorisée. La langue arabe apparaît donc comme une langue qui est porteuse d'un imaginaire prestigieux, porteuse d'une riche diversité, pendant que son enseignement dans le système éducatif français donne un vécu de langue ostracisée, marginalisé, qui a de la peine à prendre une place légitime dans le concert des langues vivantes enseignées. Pourquoi ? Par le poids sociologique qu'elle supporte, et en principalement le poids de l'émigration maghrébine dont on ne veut voir que les difficultés, le manque de volonté politique, qu'elle soit nationale ou académique, les freins divers, conscients ou inconscients, les soubresauts politiques dans le monde arabe, l'actualité violente, ne contribuent pas à avoir un discours serein et bienveillant envers la langue arabe. C'est une chance manquée. C'est une chance manquée de pouvoir valoriser un capital important. La France aujourd'hui est le seul pays occidental à enseigner l'arabe et sa civilisation aux différents niveaux de l'enseignement. De l'enseignement primaire à l'université, avec un corps d'enseignants titulaires, à disposer aujourd'hui d'une pédagogie très importante de l'enseignement de l'arabe langue étrangère, de réflexion, d'adossement sur le cadre européen commun de référence pour les langues, sur la réflexion sur le plurilinguisme, sur des questions, par exemple, comme la vocalisation, sur la diversité des documents que l'on peut utiliser, autant d'atouts que d'autres pays occidentaux nous envient. Nous laissons le monde associatif, et en particulier le monde associatif religieux, revendiquer l'enseignement de l'arabe. Comme dans les contes, vous savez, le héros dans les contes qui dilapide l'héritage, ben nous dilapidons l'héritage en raison du poids de l'héritage colonial, tout comme celui de la prégnance de la notion d'assimilation qui effacerait toute trace d'origine, d'une cécité face aux enjeux sociaux et aux enjeux internationaux. Merci à vous.
Merci beaucoup.